Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les stratégies des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste AEF Info, et avec Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, nous recevons aujourd'hui un homme qui ne travaille pas pour une grande école, ni pour une université.
Dommage.
Qui n'en dirige pas non plus une, mais qui le connaît pourtant très bien, Jean-Claude Legrand, DRH de L'Oréal depuis bientôt 3 décennies, et engagé aux côtés de la FNEJ, dont il est membre du conseil d'administration depuis 2020. Bonjour Jean-Claude Legrand et bonjour Jérôme.
Bonjour Sarah.
Jean-Claude Legrand, vous êtes le premier représentant d'entreprise que nous recevons à ce micro. Et nous avons beaucoup de questions pour vous sur le regard que vous portez en tant que recruteur, mais aussi comme partenaire sur les formations de gestion en France. Mais avant de rentrer dans les détails, dites-nous pour commencer ce qui vous frappe le plus dans le paysage de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Quels en sont les points saillants vu de votre fenêtre de DRH?
Pour moi, un des points saillants dans les dernières années, c'est la progression, par exemple, des écoles post-bac. Il est indéniable que maintenant, chaque grande école de gestion se dote de façon directe, ou moins directe, mais en tout cas possède un BBA, quelque chose qui était une sorte d'anomalie du paysage des grandes écoles de gestion françaises il y a 30 ans. Par exemple, l'ESCA, qui à l'époque n'était qu'à Angers. L'IESSEC, par exemple, est devenue une école avec une réputation bien établie. Toutes les autres grandes écoles de gestion ont suivi ça. Ça, c'est un premier changement qui marque. Un deuxième changement qui marque, c'est bien sûr la multiplication des sites en France. À Clichy, où je travaille, le siège de L'Oréal est à côté de l'EM Normandie. Bon, c'est toujours pour moi une surprise de voir que l'EM Normandie est à Clichy, pas nécessairement à Caen ou à Rouen. Et c'est vrai pour tous les établissements, ils sont maintenant absolument partout, avec ce phénomène qui aussi me marque, qui est la façon dont les grandes écoles de gestion et de management sont développées dans l'immobilier. C'est-à-dire que dans un moment, par exemple ici à Paris, où l'immobilier ralentit, les grandes écoles sont de plus en plus friandes d'acheter de l'immobilier, d'en être propriétaires. Bon, c'est une vision. La troisième chose qui marque, c'est par exemple la multiplication des partenariats internationaux, qui étaient déjà en place, mais qui se développent. Nous, L'Oréal, j'en discutais encore ce matin avec une jeune graduée d'HEC du programme SEMS. On est très fiers d'avoir participé à la création de la SEMS. Mais aujourd'hui, la SEMS, c'est un de ses partenariats, de ses échanges. Donc voilà, c'est ces phénomènes-là qui... Bon, en plus, la taille aussi. Il y a de plus en plus d'étudiants. C'est de plus en plus complexe d'y comprendre quoi que ce soit. Et moi qui suis ça avec attention depuis, comme vous l'avez dit, plus de 30 ans. Alors, trentaine d'années dans L'Oréal, plus de 35 ans, je n'ai pas travaillé que pour L'Oréal. Mais oui, c'est ces phénomènes-là qui sont intéressants.
Vous-même, vous êtes un produit plutôt de l'université, puisque vous avez fait vos études initiales à Sciences Po Aix dans les années 80. Puis un DESS en ressources humaines à Paris Dauphine, après avoir quand même raté l'ENA, dont vous dites souvent que c'est l'une des meilleures choses qui vous soit arrivée.
Ça m'a aidé en plein de choses. D'abord parce que ça me permet de savoir que c'était pas si facile de le faire. Donc contrairement à plein de gens qui trouvent que l'ENA est comme ci, comme ça, moi je me suis confronté à ce concours d'entrée et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui l'ont réussi parce que c'est difficile. Ensuite, je le raconte pas souvent, parce que je parle pas souvent, mais quand je parle par exemple avec mes enfants pour leur donner des conseils, à l'ENA, quand je suis arrivé à Sciences Po à Paris, dans les années effectivement 80, en l'occurrence c'était en 86, au milieu des années 80, où l'exigence était vraiment la règle, il y avait des galops d'essai tous les week-ends, enfin bon, il y avait beaucoup de travail. Donc ça m'a confronté à une charge de travail que je n'avais pas eu l'habitude d'avoir avant, et puis à des gens forts. Donc oui, ça m'a aidé parce que du coup, ça m'a permis de mieux me connaître, ça m'a permis d'échouer aussi, et je pense qu'échouer est une chose importante dans la vie, et de repenser ce que je pourrais faire d'autre, et ce qui m'a amené... arrivé à Dauphine. Alors après, j'ai aussi des grands débats philosophiques. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que j'ai préparé mon plan B, en l'occurrence faire un DESS, qu'on appelait un DESS à l'époque de ressources humaines, qui était la deuxième promotion à Dauphine, ou est-ce que c'est parce que... Donc la question, c'est ça, c'est chicken and egg. C'est parce que j'avais préparé un plan B que j'ai raté, ou c'est parce que j'ai raté que j'avais un plan B. Bon, moi, je ne veux pas savoir. Ça me permettait de mieux me connaître. J'ai vu qu'il y avait des éléments. Et puis en plus, surtout à l'époque, c'est amusant parce que tout le monde me pousse aujourd'hui... à révéler une de mes particularités, c'est que moi je suis dyslexique, dysorthographique. Hein. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui me font des commentaires sur mes posts LinkedIn, il y a une faute d'orthographe. Oui, je sais, je me suis relu, je laisse des fautes, ce n'est pas exprès, j'en suis confus. Si les gens m'écoutent et qui voient mes fautes, n'hésitez pas à me corriger, je prends ça très bien.
Bon, ça ne vous a pas empêché de faire la carrière que vous avez faite, en tout
non,
cas.
Non, mais maintenant c'est amusant parce que les gens en parlent. Moi, voilà, maintenant, c'est pour ça que j'ai aussi un... Je relativise beaucoup les progrès de l'intelligence artificielle qui n'arrive toujours pas à corriger mes fautes. Donc, bon. Donc moi, ce que je dis, je dis quand le correcteur sera parfait, ça évitera de faire des conneries, parce que vous doutez bien que j'ai appuyé 3 fois sur le correcteur, essayé de changer les accords, les trucs, les machins. Donc voilà, donc il y a encore du boulot.
Je l'ai dit, vous êtes engagé aux côtés de la FNEJ, et par le passé, vous avez aussi fait partie de la toute première commission ELFER. Donc c'était l'ancêtre de la CEFDG, qui évalue la qualité des diplômes délivrés par les institutions privées dans le domaine de la gestion. Pourquoi cet intérêt pour la chose académique? Et j'ajoute une deuxième question, en quoi le développement du savoir, et donc de la recherche en sciences de gestion, est utile à une entreprise comme L'Oréal à l'heure où on entend beaucoup dire l'inverse?
Alors, d'abord, Jean-Pierre, si tu nous écoutes, je t'embrasse, gros bisous avec tous les gens qui composaient ta magnifique commission. En fait, moi j'avais été coopté, je ne connaissais pas Jean-Pierre Elfer, enfin je le connaissais à l'époque où il dirigeait Audencia, qui est une école d'ailleurs qu'on a... activement participer, parce que l'idée de se dire il n'y a que quelques écoles, non, il peut y avoir une excellence dans plusieurs écoles, et même en province, et même à Nantes. Mais on avait travaillé avec le président de Jean-Pierre, donc mes relations dans l'enseignement supérieur en France, et pas qu'en France d'ailleurs, est ancienne, profonde. Quand je voyage, j'essaie de rencontrer les doyens, donc les deans, pour comprendre, pas pour essayer d'influencer, pour comprendre, et pour aider. Aider pourquoi? Parce que L'Oréal est une entreprise qui a des moyens importants. Et souvent, là aussi, ce que j'explique à mes équipes, c'est que c'est important de les investir dans une façon de rendre et développer. Par exemple, on a 2 chaires à l'ESSEC. Est-ce que j'ai un ROI sur chacune? Non. Par contre, est-ce que je permets à l'école de rayonner, de se développer? Oui. C'est une question que j'avais eue il n'y a pas très longtemps avec l'ami Vincenzo, si tu nous écoutes, là aussi, je te salue. En fait, la stratégie de L'Oréal, c'est une stratégie qui consiste par un sourcing... identification sur les campus des étudiants le plus en amont possible. Et moi, je considère qu'on ne peut pas être une entreprise qui juste dit « dites-moi merci parce que je viens recruter hein, ». Donc, c'est qu'est-ce qu'on rend à l'université, qu'est-ce qu'on rend à la grande école. Et donc, participer à ces commissions, c'est le ministère de l'économie à Bercy qui m'avait amené à l'époque. Je ne sais toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Mais effectivement, c'était amusant. D'abord, ça m'a permis de mieux comprendre plein de choses. Et l'effort que j'ai essayé de faire aux côtés de Jean-Pierre et de la commission à l'époque, c'était de pousser la recherche, par exemple. Là aussi, en finançant des bourses, des chaires. Parce que je pense qu'on peut faire de la recherche en sciences sociales en France. Je pense qu'on a une vision française et non pas cocorico sur un tas de fumier ou Astérix Obélix. Mais je pense qu'il y a une façon de faire de la gestion qui n'est pas qu'une façon américaine. Pour moi, L'Oréal en est un exemple. C'est pour ça que le lien se fait entre la vision qu'on, nous, on a du management, de la gestion, qui est une vision centrée sur l'homme, où bien sûr on ne fait pas 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires sans des process, mais ce sont les gens qui dirigent les process et pas des process qui nous dirigent. On pourrait rentrer dans une discussion là-dessus, sur nos grands concurrents par exemple, américains, chez qui le process est roi. Chez L'Oréal, ce sont les individus, qui ne sont pas rois d'ailleurs, mais qui décident et qui gouvernent l'entreprise.
Alors le grand débat qui agite l'enseignement supérieur, ou les grands débats qui agitent l'enseignement supérieur en ce moment, c'est d'une part l'apprentissage avec la loi de 1919 qui a ouvert grand les vannes du recrutement par apprentissage dans les entreprises.
2019.
Mais il y a quand même un siècle.
Et Jérôme était en 1905. Il s'est passé beaucoup de choses au début de du siècle précédent. Il a raison.
2019.
Et puis, le deuxième aspect, c'est la mise en place d'un label qui permettrait de faire le tri, parce qu'effectivement, beaucoup de formations ont émergé grâce à l'apprentissage récemment. Alors, est-ce que vous, depuis l'entreprise, est-ce que vous êtes aussi gêné par cette multiplication des programmes, des titres, des niveaux? Et comment vous faites pour vous y retrouver? À qui vous faites confiance?
Alors, moi, je suis moins gêné que les parents. À mon avis, les plus gênés, ce sont les parents. Ce sont... Alors, moi aussi, je suis parent, mais je suis père, plein d'enfants, d'ailleurs. Mais c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple de s'y retrouver. Non, en tant qu'entreprise, d'abord, l'apprentissage, nous, on a commencé en 1993. Avec Michel Giraud, qui était à l'époque ministre de l'enseignement supérieur. On s'est lancé dans l'apprentissage avec une vision, qui est toujours la même, 30 ans plus tard. D'ailleurs, on a fêté les 30 ans d'apprentissage chez L'Oréal, donc c'est 10 000 apprentis à L'Oréal, et c'est 1 000 par an maintenant, donc c'est une montée à l'échelle progressive. Mais nous, d'emblée, dans la vision qu'on avait de l'apprentissage, on a voulu faire l'apprentissage aussi dans l'enseignement supérieur. Donc on a beaucoup accompagné, par exemple, l'ESSEC, qui à l'époque était une des premières grandes écoles à faire l'apprentissage, pas uniquement pour, comme les concurrents imaginaient, ramasser de la taxe, et s'en mettre plein les poches, mais tout simplement pour se dire, il est possible de l'apprentissage ne doit pas être limité qu'à des jobs, entre guillemets, dans des bacs plus 2, ou des jobs d'ouvrier, ou des jobs, je sais pas, sur le terrain. Il y avait cette idée de dire, on pouvait faire de l'apprentissage dans la grande école, qu'on a soutenue. Donc l'apprentissage, c'est une épine dorsale pour nous. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant, parce que quand on a fêté ces 30 ans d'apprentissage l'année dernière, j'ai redonné la parole à des apprentis qui sont aujourd'hui des dirigeants. Ça a surpris d'autres plus jeunes apprentis, parce que si on regarde 20, 25, 30 ans plus tard, nos premiers apprentis, j'ai en tête une jeune femme qui est aujourd'hui une des dirigeantes clés de nos laboratoires de recherche, qui a démarré en apprentissage il y a une vingtaine d'années. Ensuite, pour ce qui est de c'est aussi un des grands combats que Jean-Pierre Elfer menait sur la reconnaissance des diplômes par l'État, les conditions qui permettaient d'obtenir cette labellisation, qui était très importante pour les parents surtout. Hein, je reviens sur les parents, parce que c'est eux que ça rassure. Maintenant, la multiplication, c'est tellement foisonnant, plus le blended, plus le truc à distance, plus finalement mon truc est accrédité, j'en sais rien, dans les pays du Maghreb, mais en fait, tu vas quand même rentrer par Casablanca et finir à Paris. Je pense que plus personne n'y comprend rien. Ce qui, moi, m'apporte, c'est la qualité des professeurs. C'est ce qu'on essayait de faire déjà à l'époque, qui permet d'avoir des moyens pour qu'on embauche des professeurs et pas censé dans des compétitions frénétiques pour savoir s'ils sont mieux payés aux États-Unis ou ailleurs. Hein, quand on voit aujourd'hui le trouble dans les grandes écoles américaines, la suppression de la discrimination positive. En fait, c'est amusant, regardez, je vais vous citer un exemple, parce que bon, moi, ma vie, c'est de rencontrer des gens. Aussi d'essayer de mener des réformes importantes d'entreprise, mais j'essaie de rencontrer beaucoup de gens. Ce matin, j'étais avec une jeune femme, typique de ce qui est en train de se passer dans le monde, une jeune américaine de 27 ans, qui travaille déjà depuis 4 ans pour nous et qui était expatriée des États-Unis et qui est diplômée de UPenn. Et la question qu'elle m'a posée, qui est typique de ces changements qui sont en train de se reproduire, c'est est-ce que j'aurais fait un MBA ? Je dis, mais non, surtout pas. Est-ce que tu as 250 000 euros à mettre dans une poubelle ? Un MBA aux États-Unis, c'est pensé pour... Au début, je m'oriente mal, parce que c'est pas grave. Je sors de mes études initiales, de mon collège, et je rentre. Alors, si j'ai fait la Ivy League comme elle, c'est mieux. Puis je rentre dans la vie active. En fait, par définition, je vais m'emmerder. Je vais essayer de mettre de l'argent de côté. Puis ensuite, je vais me repenser, parce que je vais faire un MBA. Mais si tu peux te repenser tout de suite, gagne du temps. Hein, c'est plutôt, moi, le conseil que je donne. C'est d'avoir... Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un échange entre... D'où l'importance de l'entreprise. Un parcours académique, alors là, les rankings, les classements, bon, le mieux possible en fonction de ses capacités. Et puis ensuite, surtout, de faire un apprentissage, des stages, des voyages. C'est ça le plus important. Et puis de rentrer dans une entreprise qui, comme la nôtre, a encore l'ambition aujourd'hui de faire des parcours aux gens, les former sur une très longue période.
Et alors, comment vous faites le tri entre le bon grain et l'ivraie par rapport au diplôme, au titre
Plus que le diplôme. Alors c'est amusant, parce que là aussi, on a des grands débats enflammés dans L'Oréal, dont beaucoup de gens... L'Oréal, c'est je sais pas, 250 personnes diplômées d'HEC, mais aussi 250 personnes diplômées de l'ESSEC, mais aussi 250 personnes diplômées de l'ESSEC. Mais bon, c'est ma blague. Hein. Souvent, je dis, on fait beaucoup de diversité cette année, on ne va pas recruter que des gens d'HEC, on va aussi prendre des gens de l'ESSEC. Bon, donc, non, c'est d'ouvrir, parce qu'il y a des gens formidables ailleurs, mais, par exemple, L'Oréal en France, c'est plus de 2000 stages. Donc, par une politique de stage active, on permet de détecter des talents, et c'est pour ça aussi que j'ai tout fait pour ouvrir L'Oréal aussi à l'université. On a mis en place un programme il y a longtemps qui s'appelait Phoenix. On est partenaire de la création de tout stage université. Donc c'est d'ouvrir. C'est pour ça qu'on pense que les stages de seconde, c'est une bonne chose. On va en faire 500 dès cette année. On a 1000 stages de troisième. Plus on va pouvoir donner le goût de l'entreprise, plus on va pouvoir donner une chance à ces gens de s'exprimer, plus on va pouvoir trouver des talents qui ne sont pas tous uniquement dans les grandes écoles de gestion et de commerce. Il y en a beaucoup, parce qu'ils ont été filtrés préalablement, mais il n'y en a pas que là.
Finalement, si je suis ce que vous êtes en train de nous dire, vous n'avez pas vraiment besoin d'un nouveau label, vous, en tant qu'entreprise. Ce fameux label que le ministère est en train de mettre au point.
Je vais vous dire, j'ai toujours un grand principe. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant qu'un nouveau label, je n'ai pas suivi cette...
Il n'est pas sorti encore.
Il n'existe pas encore, mais l'idée, c'est de savoir comment on fait le tri entre...
Il y a une reconnaissance des diplômes de l'État. Bon, donc ça, c'est déjà une base solide. Il y a, et la FNESH contribue activement à ça, des tests, il y a plein de façons de sélectionner intégralement. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un label de plus pour savoir qui va l'avoir ou pas ? Je n'en suis pas sûr.
D'accord, ouais, c'est clair au moins. Est-ce que, à vos yeux, un établissement d'enseignement supérieur privé lucratif, parce que le débat tourne quand même autour de ça...
Qui appartiendrait à un fonds.
Voilà.
Chinois.
Par exemple,
ou
américain ou français.
Oui.
Est-il par avance suspect de délivrer des formations de moins bonne qualité que ses homologues du public ?
Non. Pour moi, non. En plus, c'est amusant parce que le public a tout autant besoin de gagner de l'argent. Moi, ce qui m'importe, c'est pas qu'il y a de ce coup les mecs se mettent à diplômer 15 000 personnes à distance, sans les avoir vues, avec des profs qui eux-mêmes seraient basés aux Philippines. Là, ça m'inquiéterait, mais c'est ce que mes équipes contrôlent, hein, pour s'assurer. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est les enseignants, c'est la qualité du parcours académique. Est-ce qu'une entreprise privée, c'est comme si on se disait, il ne peut pas coexister des entreprises publiques et privées. Bon, il y a les deux, maintenant elles ne font pas la même chose.
Et l'UAM Lyon chez Galileo, vous en pensez quoi ?
Bah, d'abord, je trouve que Galileo, c'est formidable. Mais non, je plaisante, parce que Galileo, bien sûr, j'ai un lien indirect avec Galileo qui appartient à Tétis, enfin, qui appartient en partie à Tétis, qui appartient lui-même à la fondation, enfin, à la fondation, à la famille qui a fondé L'Oréal, qui est la famille Schueller-Bettencourt-Meyers. Non, Galileo, je pense que c'est une expérience intéressante, d'essayer non pas d'accumuler, mais de consolider des choses hyper différentes. C'est très éclectique, ça va du cours Florent effectivement à l'UM Lyon. Je pense que l'UM Lyon n'était peut-être pas en grande forme, donc c'est à mon avis une bonne chose que Galileo s'intéresse à eux. Moi, je ne rentre pas dans des questions de savoir, considération de savoir si c'est mieux que ce soit une entreprise, un fonds, entre guillemets, basé en France, qu'un fonds basé ailleurs. Je pense que le plus important, c'est qu'ils donnent des moyens qui vont leur permettre de se développer, et c'est ce que j'espère pour l'UM Lyon. C'est une question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'écoles ont besoin de financement, elles ont une limite, il y a deux limites qu'elles ont atteintes aujourd'hui. Elles ont grandi en volume, et elles ont grandi en valeur. Hein, moi, ce qui me soucie, et c'est pour ça que je suis très en faveur de donner des bourses et d'accompagner, c'est le prix de la scolarité. Hein, vous parliez tout à l'heure de mes études, mes parents, moi je suis d'origine modeste, je viens des classes moyennes, mon père est autodidacte, ma mère a fait très peu d'études. Donc moi, si ça n'avait pas coûté 1 500 euros, l'équivalent de 1 500 euros, enfin 1 500 francs plus exactement, je n'aurais pas fait les études que j'ai faites.
Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans les 15, 17, 20 000 euros.
Mais même plus, là, j'ai vu encore, ils ont fait des pricing pour se mettre juste sous, ça fait penser à mes chefs de produits, sous 22 000 à 21 990. Non, je pense que là, les prix deviennent... La question, c'est qu'est-ce qu'on a en fonction de ces prix aujourd'hui ? Donc, ça devient des prix très importants.
Alors, restons un peu sur ce sujet, puisque L'Oréal est connu et reconnu pour sa politique RH en faveur de la diversité. Un sujet que vous travaillez depuis plusieurs décennies.
Yes.
Alors, que dites-vous aux responsables des grandes écoles pour qu'elles s'améliorent sur ce sujet, puisqu'elles sont souvent accusées de faire de la reproduction sociale, en tout cas pour les plus grandes? Quelles sont les discussions que vous avez avec elles de ce point de vue-là ?
Ah, des discussions animées, mon cher Jérôme, des discussions animées. D'abord, de temps en temps, les gens, maintenant que je suis vieux, les gens me posent la question en disant « Mais pourquoi tu t'es intéressé à ces questions ? Qu'est-ce qui t'a amené à s'intéresser au début des années 2000 ?» Bon, comme toujours, dans ma vie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça a été des rencontres. Donc, c'est la rencontre de Richard Descoings. Hein, comme je disais, moi, je suis un ancien de Sciences Po Aix-en-Provence, mais aussi à Sciences Po Paris, où j'ai passé une année en classe de préparation à l'ENA. Et en fait, on était trois à l'époque. On était trois DRH de L'Oréal, dans trois divisions différentes. Une dans le business professionnel, une dans la grande consommation, et moi, qui était dans le directeur de ressources de la plus petite des divisions L'Oréal à l'époque, qui s'appelait Cosmétique Active. Bon, c'est ironie de l'histoire, hein, ça faisait 1 milliard, ça en fait 7, donc ça a pas mal changé en quelques années. Et je n'y suis pas pour grand-chose, c'est simplement des gens qui ont géré le business magnifiquement. Et donc du coup, je rencontre Richard Descoings, qui nous propose de sélectionner des étudiants de la première promo des classes CEP. Et là, je dois reconnaître que, et même Dieu sait si je pratiquais les ressources humaines depuis un an, les questions qu'il nous a posées, les rencontres qu'on a fait à Aulnay-sous-Bois alors qu'on était juste à côté dans ce lycée, le proviseur, bon, à Saint-Ouen aussi, je me suis dit, il y a quand même un problème. Ces gens-là ne savaient même pas que Sciences Po existait. Ils n'avaient pas été élevés dans cette idée de se dire qu'il faudrait faire ça. Et c'est souvent ce que je dis, moi aussi. Bon, ben voilà, Sciences Po X, c'était bien. Moi, je venais d'Aix-en-Provence. Je m'imaginais qu'il y avait d'autres choses, mais je ne savais pas ce que c'était. Hein, donc, je n'ai pas été élevé dans cette idée-là.
Alors, donc, vous dites aux grandes écoles d'aller vers des publics différents, de faire des cordées de la réussite.
Bien sûr. Oui, d'accord. Alors, les cordées de la réussite, c'est pas mal. Mais quand je vois Sciences Po, on pourrait. Alors, aujourd'hui, tout le monde va parler de Sciences Po avec un autre angle. Mais si je regarde sur ces 25 années, ils ont complètement ouvert l'école. C'est des milliers d'étudiants. Moi, je connais personnellement plusieurs des 17. Enfin, plusieurs sur les. La première promo, c'est 17 personnes, dont un étudiant qui a accepté de reconnaître qu'il venait des filières CEP, qui s'appelle Sébastien Aubert. Si un jour il écoute, je te rends hommage, Sébastien, qui dirige nos affaires aujourd'hui dans les pays des Balkans. Sébastien, il a mis beaucoup de temps à le dire. Il est blanc comme nous trois. Il venait d'Aulnay-sous-Bois. Et ses parents lui ont dit « ça ne va jamais marcher ». Mais quand il est rentré dans la première promo, ils n'ont pas été lui parler à lui, ils ont été parler à d'autres, parce que c'était quand même la première fois qu'ils voyaient des gens avec des profils des faciès, des couleurs de peau différentes. Bon, si je regarde sur cette période longue, c'est quand même une réussite. Les autres, ils ont fait des morceaux de ça, mais ils ne sont jamais rentrés dans le sujet. Donc c'était facile de dire, on ne veut pas faire comme Descoings qui fait la discrimination positive. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait ? Donc les cordées de la réussite, c'est OK, mais en fait, on n'a pas vraiment passé à l'échelle tout ça. Ça reste sur des trucs un peu limités, et ce n'est pas suffisant. Tout le monde aurait fait ce qu'a fait Sciences Po Paris, on aurait aujourd'hui 40 000.
Donc vous seriez plutôt favorable à une discrimination positive à l'entrée des grandes écoles ?
Non, moi je ne suis pas pour une discrimination positive, je suis pour montrer que c'est possible, leur ouvrir. Moi j'ai fait partie avec René Raymond du jury d'examen des filières CEP, je vous dis juste, ce n'était pas la discrimination positive. Les travaux qui ont été menés par ces étudiants pour arriver là, les euros qu'on leur faisait passer, c'était des euros qui, par rapport à ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient à faire, étaient très difficiles et on ne prenait pas tout le monde. Et René Raymond, ce n'était pas quelqu'un qui était connu pour baisser l'exigence.
Non, mais là, on y arrive quand même à des dispositifs de discrimination positive. Par exemple, HEC donne des points supplémentaires aux boursiers quand ils passent la deuxième fois le concours. Mm-hmm. L'ESSEC a mis en place un dispositif de double appel à l'oral. Mm-hmm. Donc, on y arrive.
Bon, moi, je ne sais pas si c'est positif. Par exemple, typiquement, le truc américain. Moi, ce qui est important, c'est que, par exemple, c'est la décision qu'on avait à Sciences Po. Un lycée dans lequel il y a 50 étudiants qui sont rentrés, pour moi, on doit changer de lycée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire qu'ils ne savaient pas comment faire. Mais qu'au départ, on arrive et qu'on défriche, qu'on accompagne, qu'on aide et qu'on permette à des gens qui sont complètement éloignés de ces cercles, de cette connaissance, de cette possibilité, non pas de se reproduire tranquillement entre eux. Mais moi, je vous le dis, c'est mon expérience personnelle, mais mon père qui n'avait pas eu le bac, j'avais pas les mêmes conversations avec lui qu'avec des gens que j'ai eu ensuite. Moi, j'ai pas la même conversation avec mes enfants que ce que moi j'ai eu avec mes parents.
Bien sûr.
Parce que, non pas parce que j'exige plus d'eux, mais ils ont accès à plus d'informations, ils ont été élevés dans un milieu différent qui leur donne accès à beaucoup plus de choses. Voilà, donc moi, ouvrir les portes, permettre que c'est... Mais l'idée de se dire, on baisse l'exigence parce qu'ils sont moins forts, non. Mais par contre... Par des bourses, par des choses... D'ailleurs, c'était un point d'honneur, je faisais ça avec quelqu'un, peut-être qu'il nous écoute aussi, qui s'appelait Philippe Cabanette. On a été pendant des années, tous les deux, jusqu'au bout dans ces jurys. Je n'ai plus été de nouveau au contact depuis longtemps. Bon, maintenant, mes responsabilités ne me permettent pas tellement d'avoir de temps, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais j'ai justement combattu cette idée de se dire comme si c'était positif pour baisser le niveau, pour permettre... Non, il faut... Il faut laisser le niveau élevé, mais permettre à ces gens de monter à ce niveau-là. Et c'est possible. Pour beaucoup d'entre eux, c'est possible. Ils ne s'en donnent simplement pas les moyens. Ils ne savent même pas que ça existe.
Cher Jean-Claude Degrand, on aurait encore eu plein de questions à vous poser, notamment sur le fait que vous avez été désigné en avril de cette année le DRH le plus influent du SBF 120 sur les réseaux sociaux. Donc j'aurais eu des questions sur l'impact de ces réseaux sociaux, sur l'IA aussi. D'ailleurs, si vous pouvez en deux phrases nous dire ce que vous pensez
l'IA va
changer en matière de recrutement et d'adaptation.
En matière de recrutement. Nous, on a testé il y a 10 ans, j'étais parti comme un fou aux États-Unis avec une start-up qui avait été achetée par Adecco, en Chine avec une autre start-up. On rêvait, parce que nous, on a 1,3 million de candidatures, donc on se disait, ça va sélectionner. Bon, ça n'a pas du tout marché, alors on va voir si les nouvelles versions, parce que l'IA, ça fait 50 ans hein, que c'est là. Bon, on va voir si les nouvelles versions, elles permettent de... Mais cette idée de se dire qu'elles matcheraient sans nous et qu'on n'a plus besoin, moi, j'y suis totalement opposé, qu'elles simplifient, qu'elles sélectionnent, qu'elles me donnent plus d'informations, pourquoi pas. LinkedIn, avant le Covid, je n'avais pas regardé... je travaillais avec les dirigeants de LinkedIn, parce que j'étais attaché à ce que l'oral... Pour moi, personnellement, je n'avais pas commencé à le faire, et puis je me suis intéressé, amusé, et puis surtout, je le dis aux gens qui m'écoutent, je n'ai pas de community manager, je fais mes fautes d'orthographe moi-même, je réponds aux gens moi-même. Voilà, donc je pense que c'est ça qui intéresse les gens quand ils me suivent, c'est de savoir que c'est moi derrière, et que ce n'est pas crafté avec 3 personnes qui relisent mes trucs pour écrire des trucs corporates, indigestes et imbitables.
Bon, et on va vous demander encore une dernière chose très personnelle, ce serait de nous donner... quelques conseils de lecture ou d'écoute ou de visionnage de films qui vous auraient marqué ces derniers temps, qui permettraient peut-être de prolonger ce moment d'échange avec vous sur votre métier de DRH, sur ses relations avec le supérieur aussi peut-être. Est-ce que vous avez 2 ou 3 titres comme ça à nous soumettre ?
Alors moi je suis quelqu'un de... Bon, c'est un trait de ma personnalité qui s'affaiblit pas en vieillissant. Je suis un côté un peu excessif. Alors les gens vont vous dire que c'est parce que je viens du sud de la France, donc j'assume très bien.
Ça se sent un petit peu.
Oui, donc je viens du sud, donc ils vont dire calme-toi. Non, donc moi quand je fais... Donc là par exemple, j'ai lu un bouquin, là, que je suis en train de finir, d'un Italien qui s'appelle Monsieur Greppi, je ne vais pas écorger son prénom, qui est l'histoire du maçon qui a sauvé Primo Levi à Auschwitz. Moi je trouve ce bouquin intéressant, que je relis avec ce film incroyable anglais sur cette vie parallèle à Auschwitz, pendant que les gens, et uniquement on entend les voix, je ne sais pas si vous avez vu ce film.
La zone d'intérêt.
Voilà, la zone d'intérêt, cherchez le nom. Bon voilà, ça c'est des trucs intéressants, mais en parallèle, comme je suis dans la... avec François Lecointre, j'ai partagé son bouquin et j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, c'est que par la lecture, les rencontres, j'avais complètement pas oublié, mais ça ressurgit en ce moment, puisque Emmanuel Macron et d'autres s'interrogent sur le rôle de la France au Rwanda. Bah, je pense que quand on voit le propos de ce général qui était jeune à l'époque, engagé, qui ne savait pas comment s'en sortir. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences que je peux découvrir pour accélérer les miennes au travers de la lecture ou des rencontres où je découvre plein de choses, que j'apprends plein de choses. Moi, je considère que je peux apprendre tous les jours. C'est en ça qu'on reste beaucoup plus redoutable que ChatGPT, 3.5 ou 4, ou que Mistral large, parce qu'effectivement, on est des machines, mais humaines, et on apprend tous les jours par... par exemple, souvent, là, vous ne m'avez pas posé la question, mais les gens pensent que je suis très opposé au travail à distance. Donc, je suis surtout très opposé à ne pas se voir, à ne pas être ensemble. On pourrait avoir fait ce podcast sans être tous les trois dans le studio. Merci, merci à vous deux. Mais le fait qu'on interagisse, qu'on se regarde, ça change tout. Et donc, je pense que l'humain, pour moi, est la clé. Et donc, lire des choses intéressantes. Moi, tous les jours, je découvre des trucs. Je me perds dans la FNAC. Alors, j'ai trop de bouquins. Là, les gens, j'avais encore une jeune personne dans mon bureau tout à l'heure. Je suis entouré de livres. Alors, je n'arrive pas à tout lire, mais j'en lis le plus possible pour essayer de donner des conseils sur ça.
Vous nous en avez déjà donné un ou deux, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Jean-Claude Legrand de nous avoir rendu visite au Studio Module aujourd'hui. Merci à vous Jérôme et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité et d'ici là, portez-vous bien.